Chapitre 2. 28 décembre 1884. Je suis allé cet après-midi chez M. Flammarant. Il y a 8 jours que j'y songeais, mes latins juniens se trouvant en détresse. Cette intéressante classe d'affranchis commence à me passionner. Sympathie bien naturelle, en vérité, les latins juniens sont de pauvres esclaves dont l'ancien droit formaliste de Rome ne reconnaissait pas l'affranchissement parce qu'il avait plu à leur maître de les affranchir autrement que par la vindicte, le sens ou le testament, des déshérités par conséquent, des victimes de l'intolérance législative de l'orgueilleuse cité. N'est-ce pas touchant, déjà? Puis apparaît Junius Norbanus, un vrai démocrate, consul de son État, qui présente une loi, la fait voter et leur donne la liberté. Ils furent libres grâce à lui, il vivra grâce à eux. Désormais, un esclave a-t-il obtenu, après boire, quelques bonnes paroles de son maître? Il est latin junien. Est-il appelé mon fils dans un acte public? Latin junien. Coiffe-t-il le bonnet de liberté, le pileus, à l'enterrement de son maître? Latin junien. Et vante-t-il le cadavre? Encore latin junien pour sa peine. Quel brave cœur que ce Norbanus! Comme il pensait à tout, même à des détails de pompe funèbre, pour y trouver des cas d'affranchissement. Et cela, au milieu des guerres de Marius et de Sylla, auxquelles il prenait part. Je me le représente un soir de bataille, assis devant sa tente. Accoudé sur son bouclier, pensif, il regarde l'esclave qui répare les brèches de son épée. Ses yeux se mouillent et il murmure « Je te prépare, ô fidèle Sticus, une agréable surprise lorsque viendra la paix. Tu entendras parler de la loi Junia Norbana, je t'en réponds. » N'y a-t-il pas là un sujet de tableau ou de statue bien digne d'être choisi pour un concours de prix de Rome? Un homme aussi soigneux des détails devait avoir donné un costume spécial aux affranchis spéciaux qu'il créait, car à Rome, la liberté même a sa livrée. Quel était ce costume? Peut-être n'en existait-il point. Question que pas un texte, à moi connu, n'éclaire. Mais il me reste une ressource, M. Flammarant, qui sait tant de choses et qui pourrait savoir celle-là. M. Flammarant est du Midi, de Marseille, si je ne me trompe. Ce n'est pas un romaniste, mais comme il est universel, cela revient au même. De bonne heure, il a été célèbre et à juste titre. Peu de jurisconsultes sont aussi nets, aussi sûrs, aussi bien disants. Il professe à merveille. Ses consultations sont recherchées. Mais quels services ne lui ont pas rendu les livres qu'il n'a point écrits? Du temps de nos oncles, on se chuchotait déjà à l'oreille, dans les couloirs de l'école. Vous savez, Flammarant va faire paraître la deuxième partie de son grand ouvrage. Il se décide à publier son cours. Il a sous presse un traité qui mettra le feu aux quatre coins des hypothèques. Il y travaille depuis 20 ans, c'est proprement un chef-d'œuvre. Les jours fuient. Rien ne paraît, rien ne s'imprime. La réputation de M. Flammarant grandit néanmoins. L'étrange phénomène. Nous connaissons tous l'aloès du Jardin des Plantes. Quand l'aloès fleurit, c'est un événement. Songez donc, une fleur qu'il a fallu, disent les badauds, 20 printemps, 20 étés, 20 automnes et 20 hivers pour décider à s'épanouir. Tout Paris en oublie les roses. Mais le cas de M. Flammarant est bien plus curieux. On annonce tous les ans qu'il va refleurir, il ne refleurit pas et son succès n'en est pas moins considérable. On lui compte les heures qu'il aurait pu faire. Heureux auteur! M. Flammarant est de la vieille école professorale, austère et aux examens la terreur des candidats. Quand il est en robe, il refuserait son fils. Rien n'y fait, les recommandations l'indisposent. Les patients les plus roumains, les japonais les plus authentiques, ne trouvent pas plus grâce devant ses yeux que les faux bègues, les faux sourds ou les mines convalescentes obtenues du matin. L'Orient et l'Occident sont égaux devant lui. Les greffés retraités, les huissiers honoraires aspirant sur le tard à quelque justice de paix, n'ont pas le don de l'attendrir, et le volontaire d'un an a beau laisser poindre sous la toge du candidat le collet de l'uniforme, il ne bénéficiera pas de cette patriotique indulgence qu'il comptait inspirer. Ces mots d'examinateur sont célèbres. Il a eu des plaisanteries macabres, Celle-ci, par exemple, cette apostrophe à l'une de ses victimes. « Vous faites votre droit, monsieur, et l'agriculture manque de bras. » Pour moi, j'ai conquis ces bonnes grâces dans une circonstance que je me rappellerai toute ma vie. Je passais mon premier examen. Nous causions, ou plutôt, je le laissais disserter sur la tutelle, opinant du bonnet à ses doctes explications. Tout à coup, il s'interrompt. « Combien s'est-il formé d'opinions là-dessus ?»« Deux. Il y en a une absurde. Laquelle ? Je vous pique une noire si vous vous trompez. » Je réfléchis 3 secondes, 3 instants d'agonie, puis je lançai au hasard. « C'est la première, monsieur. » J'avais deviné juste, nous étions amis. Au demeurant, ce professeur est un excellent homme, paternel dès qu'il ne s'agit plus de l'honneur du code et de la force des études juridiques, d'une droiture proverbiale et très digne dans la vie privée. Rentré chez lui, on peut le voir, à sa fenêtre, penser des Canaries. Ce qui n'est pas, dit-il, changé d'occupation. Pour me rendre chez M. Flammarant, je n'ai qu'à traverser le Luxembourg, un chemin que j'aime, le chemin des grands écoliers. Me voici à sa porte. « Monsieur Flammarant !» La vieille qui m'ouvre me toise sérieusement. Il en vient tant de ces petits étudiants de première année qui, sous prétexte d'hommage, importunent monsieur. Des hommages, on en mourrait s'il fallait tout recevoir. Elle reconnaît que je suis au moins licencié, à mes moustaches sans doute, et dit « Je crois qu'il est là !» Il est bien là, en effet, enveloppé de sa robe de chambre dans son cabinet surchauffé. Il cligne un œil pour mieux assurer l'autre, hésite, me remet, me tend les bras. « Voilà mon latin junien, comment allez-vous »« Très bien, monsieur Flammarant, ce sont mes latins juniens qui vont mal. »« Pas possible, nous allons voir cela. » Mais d'abord, je ne me souviens plus d'où vous êtes et j'aime à savoir d'où sont les gens. De la Châtre. Seulement, je passe mes vacances à Bourges, chez mon oncle Mouillard. Oui, oui, Mouillard avec un T, n'est-ce pas? Non, par un D. C'est que, voyez-vous, j'ai connu autrefois un général Mouillard qui avait fait la campagne de Crimée, un homme charmant. Mais il ne doit pas être de votre famille parce que son nom finissait par un T. Il disait tout cela naïvement, mon excellent maître, avec l'évident désir de m'être agréable et de me témoigner quelque intérêt. « Vous êtes marié, jeune homme ?»« Non, monsieur Flammarant, mais je n'y répugne pas. »« Mariez-vous de bonne heure, le mariage est la sauvegarde de la jeunesse. Il y a bien quelques gentilles héritières à Bourges. »« Des héritières, sûrement. Pour gentilles, à la distance où je suis... » « Évidemment, à la distance où vous êtes. Vous ferez comme moi, on se renseigne, on va voir. Je suis allé jusque dans le forêt, moi, monsieur Mouillard, chercher madame Flammarant. »« Ah, elle est forésienne ?»« Parfaitement, j'y suis resté 15 jours. Non, c'est-à-dire 14, en pleine année scolaire, et j'ai ramené Sidonie. C'est une jolie ville, Bourges. »« Oui, en été. » Et bien planté, je me souviens d'une bien belle affaire que j'ai gagnée là. J'avais pour adversaire un de mes savants collègues. Nous avions donné chacun une consultation, en sens contraire, naturellement. Je l'ai battu. Ah, mais battu! Complètement. Il n'en restait rien, mon bon. Vous connaissez l'affaire? Non. Une question magnifique. Je dois avoir encore quelque part ce petit travail. Je vais vous montrer cela. Le brave homme était radieux, il n'avait sans doute pas causé de la journée, il avait besoin de se détendre et d'être aimable avec quelqu'un. Je me trouvais à point nommé et toute la douche d'eau de rose fut pour moi. Il se leva, s'approcha de la bibliothèque, parcourut du regard les titres d'une rangée de livres, prit un volume et commença à demi-voix. L'association est l'immense levier sur lequel la vieille société s'appuie pour se dégager de ses langes et prendre un essor plus élevé. Bah, qu'est-ce que je lis là? Je vous demande pardon, c'est l'un de mes collègues des sciences morales. Où diable est cette consultation? Il la retrouva et me résuma l'affaire, texte en main, avec les noms, les dates, les péripéties et de nombreuses citations in extenso. Oui, mon jeune ami, 218 000 francs que j'ai gagnés du coup pour M. Prébois de Bourges. Vous connaissez M. Prébois, l'industriel ? De nom. Enfin, la brochure fut réintégrée dans la bibliothèque et M. Flammarant voulut bien se souvenir que j'étais venu pour cause de latin junien. Quel texte vous arrête ?
L'absence de texte, M. Flammarant. Je voudrais savoir si les latins juniens n'avaient pas un costume à eux.
C'est trop juste.
Il se gratta l'oreille.
Gaius ne dit rien là-dessus ?
Non.
Ni Papinien ?
Non.
Ni Justinien ?
Non.
Alors je ne vois qu'une ressource.
Laquelle ?
Allez voir Charnot.
Je me sentis pâlir et ce fut d'un air piteux que je balbutiai.
Monsieur Charnot, de l'Académie des inscriptions, mon intime ami, qui vous recevra comme un fils. Il n'en a pas, le pauvre garçon.
La question n'est peut-être pas assez importante pour que j'aille ainsi.
Comment pas assez importante ? Toutes les questions sont importantes quand elles sont neuves. Charnot s'occupe de médailles, médailles et costumes, c'est un. Je vais lui écrire pour lui annoncer votre visite.
Je vous en prie, monsieur Flammarant.
Si, si, je vais lui écrire dès ce soir. Il sera enchanté de vous voir. Je le connais, voyez-vous. Il est comme moi, il aime les gens qui travaillent.
Monsieur Flammarant me tendit la main.
Au revoir, jeune homme, et cite au docteur, marions-nous. Je ne me remis de la secousse qu'au milieu du jardin du Luxembourg, près du jeu de paume, où je m'assis accablé.
Faites donc du zèle, allez consulter votre président de thèse.
Ah, 23 ans que tu es, quand seras-tu sage ?
9 heures du soir. C'est décidé, j'irai chez M. Charnot. Mais je passerai auparavant chez son libraire pour avoir plusieurs petits renseignements sur les travaux scientifiques de cet homme célèbre que j'ignore tout à fait. 31 décembre. Il demeure rue de l'Université. J'en reviens. J'ai été reçu. Je le dois à une surprise, à un oubli de consigne. Quand j'entrai, 5 heures sonnant, il faisait tourner au-dessus de la lampe une spirale en papier pour amuser sa fille, lui, membre de l'Institut, elle, fille de 18 ans. Voilà donc à quoi il s'occupe hors séance, ces pontifes. C'était dans le cabinet plein de bibliothèques ouvertes, vitrées, hautes, basses, à colonnes ou sans colonnes, de statuettes jaunies par la fumée, de guéridons où abondaient les presse-papiers, les coupe-papiers, les gratte-papiers et les encriers dits artistiques. Il était assis devant la table, le dos au feu, un bras levé tenant une épingle à cheveux, pivot de la spirale qui tournait lestement. De l'autre côté, sa fille, debout, courbée, le menton dans ses deux mains, riait à belles dents, par besoin de rire, de répandre sa jeunesse et de réjouir ce vieux père qui la regardait charmée. Je dois avouer que le tableau était joli, et que M. Charnot ressemblait très peu en ce moment à celui qui m'était apparu derrière le pupitre. La contemplation ne fut pas longue. Dès que j'eus soulevé la portière, la jeune fille se redressa vivement et tourna la tête de mon côté avec un petit air hautain qui cachait, je pense, un peu de confusion. Toute proportion gardée, Diane dut avoir cet air-là quand Actéon parut. M. Charnot ne se leva pas, mais, entendant venir quelqu'un, fit faire demi-tour à son fauteuil, tandis que ses yeux, encore éblouis de lumière, cherchaient l'importun dans la pénombre du cabinet. Je me sentais deux fois mal à l'aise devant ce lecteur d'incunable et devant cette enfant rieuse. « Monsieur, commençai-je, je vous devais des excuses. » Il me reconnut. La jeune fille fit un mouvement.
« Reste, Jeanne, reste, ce ne sera pas long. Monsieur vient pour excuse. »
Le début était cruel. Elle le pensa peut-être et se retira discrètement dans un coin d'ombre près de la bibliothèque du fond. « J'ai beaucoup regretté, monsieur, cet accident de l'autre jour. J'ai maladroitement posé le porte-plume en équilibre, équilibre instable. J'ignorais d'ailleurs qu'il y eût un lecteur derrière le pupitre. » Évidemment, si je l'avais su, j'eusse agi différemment. M. Charnot me laissait me noyer avec la satisfaction recueillie d'un pêcheur qui tient un gardon au bout de sa ligne. Il avait l'air de me trouver si bête que j'en étais bête en effet.
Et puis, aucune réponse, rien. Le silence n'est pas, hélas, que la leçon des rois. C'est bien celle de tout le monde. Je trouvais encore deux ou trois formules aussi platement malheureuses qu'il reçut avec le même sourire fin et le même silence. Pour me tirer d'embarras, « Monsieur, lui dis-je, je venais également vous demander un renseignement scientifique. »« À votre disposition, monsieur. »« Monsieur Flammarant a dû vous écrire à ce sujet. »« Flammarant ?»« Oui, il y a 3 jours. »« Je n'ai rien reçu, n'est-ce pas, Jeanne ?»«
Non, père. »
Ce n'est pas la première fois que mon excellent collègue promet d'écrire et n'écrit pas. Peu importe, monsieur, vous m'êtes tout présenté.
Monsieur, j'achève mon doctorat.
Est-ce lettre ?
Non, en droit, mais je suis licencié est-ce lettre.
Vous ferez sans doute votre médecine après ?
Oh, monsieur !
Pourquoi pas quand on collectionne les titres ? Vous avez donc des dispositions littéraires ?
On me l'a dit.
Un certain penchant très vif, n'est-ce pas, aux compositions poétiques ?
Mon Dieu, oui.
Je connais le cas. Les parents forcent en droit, la nature incline aux lettres. Officiellement, Cujas, secrètement, les muses. Le digeste ouvert sur la table et des vers dans tous les tiroirs. C'est bien cela ?
Je m'inclinai. Il jeta un coup d'œil du côté de sa fille.
Eh bien, monsieur, je vous avoue que je ne comprends pas, mais absolument pas, cette manière de faire. Pourquoi ne pas suivre la nature ? Vous n'avez plus de volonté, vous autres jeunes gens, soit dit sans vous offenser, monsieur. J'avais 17 ans, moi, quand j'ai commencé à m'occuper de médailles. Ma famille me destinait à l'enregistrement. Oui, monsieur, à l'enregistrement. Contre moi, j'avais 2 grands-pères, 2 grands-mères, mon père, ma mère et 6 oncles, tous furieux. Je n'ai pas cédé et cela m'a mené à l'Institut. Est-ce vrai, Jeanne ?
Mademoiselle Jeanne était revenue près de la table à la place qu'elle occupait lors de mon arrivée et semblait depuis un instant fort occupée à ranger les livres jetés pêle-mêle sur le tapis vert. Mais elle avait un but caché, ressaisir la spirale demeurée en souffrance et dont l'épingle se dressait le long de la lampe. Sa main légère, errant çà et là, avait, par de savantes manœuvres, dissimulé le corps du délit derrière une pile d'indouze et l'attirait lentement au milieu des encriers et des presse-papiers. Monsieur Charnot l'interrompit dans ce petit manège. Elle répondit avec un balancement de tête et très gentiment
« Mais, mon père, tout le monde ne peut pas être de l'Institut. »
« Il s'en faut de beaucoup, Jeanne. Monsieur, par exemple, se livre à un genre d'inscription sur Vélin qui ne le rendra jamais mon collègue. Docteur en droit et licencié S-lettres, vous serez notaire, monsieur. »«
Pardon, monsieur, avouez. » »«
J'en étais sûr. Vois-tu, Jeanne, c'est un dilemme dans les familles provinciales. Être avoué si l'on n'est pas notaire, être notaire si l'on n'est pas avoué. »
Monsieur Charnot parlait avec un demi-sourire exaspérant. J'aurais dû rire, parbleu, je le sais bien, avoir de l'esprit, celui tout au moins de me taire, de ne pas répondre aux agaceries de ce savant vindicatif. Au lieu de cela, j'eus la sottise de me piquer, de perdre la tête.
« Que voulez-vous, répondis-je, il me faut une carrière lucrative. Celle-là ou une autre, qu'importe. Tout le monde ne peut pas être de l'Institut, comme l'a dit mademoiselle. Tout le monde ne peut pas se donner le luxe de publier à ses frais des ouvrages qui se vendent en 27 exemplaires. » Je m'attendais à un coup de foudre, à quelque chose comme une explosion de dynamite. Pas du tout. Monsieur Charnot sourit tout à fait, d'un air extrêmement bonhomme.
« Je vois que vous consultez volontiers les libraires, monsieur. »«
Mais oui, monsieur, à l'occasion. »«
C'est fort joli déjà, à votre âge, d'être de cette force en bibliographie. »« Vous me permettrez toutefois d'ajouter quelque chose aux notions que vous possédez. »« Le gros succès est un point de vue, mais faux. » 27 exemplaires, quand ils sont lus par 27 hommes d'esprit, cela vaut une popularité. Croiriez-vous qu'un de mes amis en a fait tirer 8 seulement d'une étude mathématique ? Il en a donné 3, les 5 derniers restent à vendre. Et c'est le premier mathématicien de France, monsieur.
Mademoiselle Jeanne l'avait prise autrement. La tête haute, la joue empourprée, elle me jeta du bout des lèvres, avec une moue souveraine. « Il y a des succès d'estime, monsieur !» J'en étais bien convaincu, hélas, et je n'avais pas besoin de cette nouvelle leçon pour apercevoir toute l'inconvenance de mes paroles, pour me sentir grossier, absurde, irrémissiblement compromis dans l'esprit de monsieur et de mademoiselle Charnot. Elle me fut cruelle cependant. Il n'y avait plus qu'à brusquer la sortie. Je me levai. Mais, me dit monsieur Charnot du ton le plus poli, il me semble que nous n'avons pas traité cette difficulté qui vous a mené. Je ne voudrais pas, monsieur, abuser davantage de vos instants. Comment donc? Il s'agit du costume des latins juniens. C'est une question difficile, comme la plupart de celles qui touchent au costume. Avez-vous consulté les 17 volumes de l'allemand Fritschenhausen? Non. Vous avez au moins lu, sur la parure dans l'Antiquité, l'anglais Woodsmith. Pas davantage, je ne sais que l'italien. Eh bien, parcourez deux ou trois traités de numismatique, le Thesaurus Morelianus, par exemple, les Prescentoria Numismata de Vaillant, ou Banduri, ou Pembroke, ou Pellerin. Vous aurez chance d'y trouver une piste. Merci, monsieur, merci. Il me reconduisit jusqu'à la porte. En me détournant, j'aperçus mademoiselle Jeanne immobile avec son même air de Diane offensée qui tenait entre ses doigts roses la spirale reconquise. Et me voilà dehors. Ai-je été assez maladroit, assez malhonnête, assez malheureux? Venir pour m'excuser et aggraver l'offense. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Et cette jeune fille, je l'ai blessée. Elle m'avait défendue pourtant. Elle avait dit à son père, « Tout le monde ne peut pas être de l'Institut », qui signifiait « Pourquoi tourmentez-vous ce jeune homme, mon père? Il est confus, il est embarrassé, il me fait pitié. » Pitié, c'est bien le sentiment qu'elle a dû éprouver pour moi tout d'abord. Puis est venue cette sortie impertinente sur les 27 exemplaires, et mademoiselle Jeanne, à l'heure qu'il est, me hait certainement. Oui, elle me hait. Je ne sais pas de pensée plus pénible. Mademoiselle Charnot a beau n'être pour moi qu'une étrangère, qu'une apparition fugitive dans ma vie, sa colère me pèse et sa moue dédaigneuse me poursuit. J'ai rarement été plus mécontent de moi-même et des autres. Il me faut une diversion, une distraction, quelque chose qui fasse oublier. Et pour rentrer chez moi, je commence par descendre jusqu'à la Seine par la rue de Beaune. Mon Dieu, qu'il y a de jolis jours d'hiver à Paris! Le soleil est couché pour les maisons, toutes les lampes sont allumées. Mais dehors, de grands rayons roses traversent le ciel d'un azur pâle et lavé de pluie. Il gèle. La gelée, c'est le diamant partout, aux brindilles des arbres, aux angles des pierres, sur les toits et jusque sur le chapeau des cochers qui passent, récoltant des aigrettes dans la brume. La Seine charrie des moires d'écume blanche. Sur les bateaux, personne que le timonier. Mais que de monde sur le pont du Carrousel, que de cols de fourrure et que de manchons se croisent sur les trottoirs, tandis que les omnibus de la ligne Batignolles-Clichy et 100 voitures à la file font trembler la chaussée. Tout se hâte, les piétons sont lestes et les cochers adroits. Les courants se côtoient, les groupes se mêlent sans se heurter, se déploient et se dissipent comme une fumée de cigare. Il y a dans cette foule d'innombrables glissements une agilité intelligente qu'on ne rencontre qu'ici. Tous les visages sont roses et presque tous sont jeunes. C'est incroyable ce qu'il y a de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes femmes dehors. Où sont les vieux? Chez eux, sans doute, au coin des poêles. Toute la jeunesse est sortie. Elle trotte, c'est sa manière. Elle a les yeux grands ouverts et dans les yeux la vie qui brille. Les jeunes gens, surtout, ont un air plein d'avenir. Ils sont sûrs de la vie. Chacun a sa place, sa carrière, son rêve prosaïque arrêté. Ils se ressemblent. Je les prends tous pour des sous-préfets, tant ils sont importants et graves, et bien gantés. Ils vont deux par deux, tout droit, sans regarder, causant peu, marchant vite, vers le vieux Louvre, bientôt enfoncé et disparu dans la brume épaissie où tremblent les feux des réverbères. Tout ce monde va dîner rive droite. Moi, je dîne rive gauche, chez Carré, où il y a beaucoup de valaques. Au revoir, la Seine. Bonne nuit, monsieur Charnot. Adieu, mademoiselle Jeanne.